Bonjour, alors je vous parle. Ils sont sans doute sur leur vélo en train de commencer à remonter d'Afrique du Sud en direction de la Tanzanie. Il s'agit d'Olivier et de Claudine, Olivier Bourreau, Claudine Arnaud, que nous avons reçu déjà plusieurs fois à la radio depuis qu'ils ont entamé ce périple un peu fou en partenariat avec la Ligue contre le cancer pour prouver qu'après une maladie aussi grave que le cancer, eh bien, on peut continuer à être passionné et à vivre passionnément le voyage comme ils le faisaient d'ailleurs avant. Séparément et en couple depuis quelques années. C'est passionnément sur RCF. Olivier et Claudine, bonjour.
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 Alors, ça fait un mois que vous venez de faire une pause après ce deuxième grand voyage. On va peut-être rappeler rapidement à la fois les circonstances de cette prise de décision de laisser pendant 3 ans vos activités professionnelles et de vous lancer dans ce tour du monde par étapes et par épisodes de 6 mois, et puis les différents territoires que vous avez parcourus jusqu'à présent. Olivier ?
Oui, ben, c'est un projet qu'on avait tous les deux depuis longtemps, une envie. Un rêve, et puis on n'arrivait pas à le concrétiser. Et il a fallu un peu un catalyseur, quelque chose qui nous a mis sur la route finalement, et ça c'est mon cancer. J'ai eu un cancer en 2007, et ça m'a fait prendre conscience que si on voulait vivre des choses, il ne fallait pas trop les remettre à demain, on ne sait jamais. Donc dès que j'ai été à nouveau en forme, on n'a pas trop hésité, et on s'est lancé pour 3 ans voilà, dans l'aventure.
Oui, alors on est parti l'an dernier, en février 2009, sur la route de la soie, jusqu'en Mongolie. Ça a duré 7 mois, 7 mois à vélo, dans le froid. Et puis en novembre dernier, nous sommes partis cette fois-ci en Afrique de l'Ouest. Et là, on a trouvé plus le soleil entre le Maroc et le Mali.
Vous partez tous les deux et rien que tous les deux. Je veux dire, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'autres couples ou d'autres personnes avec lesquelles vous partageriez ce périple. C'est vous deux.
Non, oui, c'est ça. On est tous les deux. On se débrouille sur nos petits vélos avec notre tente. On aime être ensemble, mais dans la nature. Donc voilà, on est en autonomie. Il arrive que parfois des copains nous rejoignent pour quelques semaines. Ça nous est arrivé 2 fois déjà. Donc tout au long du parcours, des fois on a des visiteurs, mais voilà, on reste.
Vous donnez rendez-vous au marché de telle ou telle ville.
C'est parfois curieux. Notre premier visiteur, c'était mon plus jeune frère qui nous a retrouvés en Mongolie, et on s'est retrouvés dans la même ville alors qu'on avait rendez-vous 1000 km plus loin, par hasard, le même jour dans la même ville. Donc effectivement, des fois, c'est assez cocasse.
Des rencontres, vous avez dû en faire beaucoup depuis le début du voyage. On a eu l'occasion donc de vous recevoir pour en parler. On vous a eu aussi au téléphone. Pour moi, quand même, le fait de vous avoir eu au téléphone au moment où vous étiez en pleine Mongolie en train de planter votre yourte et d'alimenter votre feu, j'avoue que ça reste un grand souvenir pour moi. Je vous entendais grâce au téléphone satellite de façon incroyable. Parce que justement, la radio est aussi partenaire de la Ligue contre le cancer et a le plaisir de suivre avec vous cette extraordinaire aventure. Le choix de ce périple en plusieurs étapes, il vient d'où ?
Il nous a été imposé par les examens semestriels d'Olivier. Voilà, donc tous les 6 mois, on est obligé de rentrer pour des contrôles. Du coup, finalement, on s'y est bien fait parce que ça nous permet aussi de revoir nos proches pendant ce mois où on s'arrête. Et puis de repartir sur un autre coin du monde, suivant nos envies, quoi.
Vous aviez quand même, dès le départ, découpé en quelque sorte le voyage autour des trois grands continents que sont effectivement l'Asie, l'Afrique et bientôt, dans quelques mois, l'Amérique du Sud.
Oui, c'est ça. On avait réfléchi l'un et l'autre aux pays qu'on avait absolument envie de voir, ceux qui nous avaient fait, je pense, le plus rêver quand on était jeunes. Et puis ensuite, on a trouvé un moyen de faire des itinéraires pour que ça colle bien avec les saisons, avec les distances, pour être aussi à vélo le plus longtemps possible. Voilà, et puis après, donc on a morcelé la carte, et puis on a dit, on va là. Donc,
ça paraît facile, vu comme ça, bien sûr.
Oh oui, ça paraît facile sur les cartes. Non, mais finalement, ça l'est. Il faut avoir envie de dormir dehors, dans le froid, ou dans le sable, dans le désert. Donc, si on est prêt à accepter un peu la rudesse, des fois, de la vie extérieure, autrement le reste c'est un bonheur pour nous. On rencontre des gens extraordinaires tous les jours, on vit plein de choses, et puis on est heureux tous les deux voilà, sur nos vélos. Donc,
Vous avez parlé de la Mongolie, vous êtes allé jusqu'en Chine. Il y a aussi des moments difficiles. Je me souviens quand même, notamment quand vous avez eu au téléphone, alors c'était un autre moment, vous étiez justement en Chine et vous veniez d'être fatigué, Olivier.
Oui, moi j'avais un peu cherché, je m'étais lavé dans une rivière un peu trop froide et j'avais une espèce de pneumonie. Qui en fait n'était pas très très grave, mais surtout ça a été l'objet d'un énorme quiproquo avec les hôpitaux chinois qui, voyant arriver un étranger avec une infection au poumon, ont voulu me garder en quarantaine. Donc ça a été un épisode extraordinaire. Bon,
tout ça sans parler le mandarin couramment quand même.
Tout ça par le biais d'un interprète, c'était vraiment épique. Et puis on n'a pas rigolé sur le coup parce qu'on a cru qu'ils allaient nous garder dans leur hôpital où vraiment les conditions étaient... L'hygiène, là, c'était terrible.
Effrayante.
C'était terrible, ouais. Donc bon, mais hormis ces pépins-là, on a allé de temps en temps une petite tourista, ça nous arrive évidemment, mais on a aucun gros pépin de santé depuis un an et demi presque.
Alors vous parlez de rencontres. La rencontre, ça suppose l'échange. Et comment est-ce que vous faites sur le plan de la langue, des langues?
Là, en Afrique, c'était plus simple parce que c'est des pays où ils parlent français. En majorité, mais bon, on a parlé un petit peu arabe, au Maroc notamment, en Mauritanie.
Vous aviez appris quelques mots avant de partir.
Oui, je regarde Olivier parce que c'est plus lui qui est en charge de la communication au niveau des langues étrangères. Il avait aussi appris le russe sur la route de la soie parce qu'on passait par des anciennes républiques soviétiques, donc c'était quelques rudiments de russe qui ont pu servir. Bon, sinon, c'est avec les mains et puis on arrive toujours à se comprendre.
Est-ce que les gens, de façon générale, vous avez rencontré des dizaines, des centaines de personnes différentes, croisées, est-ce que l'accueil est favorable? Comment est-ce qu'on vous reçoit, ne serait-ce que quand vous arrivez, comment sont les regards vis-à-vis de vous?
C'est souvent de la curiosité. C'est souvent de la curiosité et des gens qui sont très fiers en fait presque qu'on s'arrête chez eux. Alors ils ont envie de nous montrer, nous faire partager leur quotidien, nous offrir ce qu'ils ont de mieux, nous montrer leur pays, nous expliquer plein de choses. Donc les gens ils sont vraiment heureux en fait de ces instants de rencontre. On a parfois des rencontres incroyables là dans le désert. On a fait peut-être 1500 km à pédaler dans le désert du Sahara occidental, donc le sud du Maroc, et il nous arrivait de chercher des habitations pour planter notre tente, et bon, il y en a évidemment une tous les 50 km, et on est tombé en particulier une fois ou deux sur des gens incroyables. Il y avait un gars qui surveillait, il était préposé à la surveillance d'une antenne de téléphone, je pense, une antenne de téléphone, donc il était tout seul, perdu au milieu du désert, et il nous a vu nous arrêter vers lui, vers les 3-4 heures de l'après-midi, en lui expliquant avec quelques mots d'arabe, est-ce qu'on peut dormir près de vous? Et lui, il n'en revenait pas, en fait. Il n'en revenait pas. Donc, au point qu'il nous a offert un verre de thé qui avait un goût, un fort goût de savon, tellement il avait dû savonner ses verres de thé avant de nous offrir le thé, parce que ça ne devait pas lui arriver très, très souvent. Donc voilà, des fois, on rencontre des gens dans des cadres complètement décalés, et ils sont surpris, et ils sont bien sûr super contents de partager un moment avec nous, et puis voilà.
Parce qu'il faut peut-être expliquer, justement, que vous cherchez, lorsque vous vous arrêtez, à être plutôt près des habitations. Vous êtes quand même lucide et prudent.
Oui, c'est ça. On demande toujours à s'arrêter près des habitations, c'est-à-dire qu'on va frapper à la porte, on va les voir et puis on leur demande si on peut s'arrêter dans le pré à côté d'eux ou très proche d'eux pour avoir l'assurance au cas où il arrive quelque chose d'avoir quelqu'un à côté. Et ça, c'est suite à nos expériences un peu désagréables en Mongolie où les bêtes sauvages sont là et finalement il faut quand même être prudent.
On fait une première pause grâce à vous deux, puisque Olivier, vous nous avez amené des musiques qui viennent du Sénégal. Ces musiques, elles ont une caractéristique au point de vue instrumental?
Je ne saurais pas vous décrire, en tout cas c'en est parmi toutes celles qu'on a écoutées, deux qui nous ont vraiment, vraiment plu.
On écoute.
Yow tongo mida, gumida. akuldo o ndaktu bawoma awoma fula to beliade je beliade fula to beliade to ma gorela fula to beliade je beliade fula to beliade to ma gorela dimi olele dimi tawangan ko jalogo jaramen ko ketam fula yole deja ayo ma gitel yo.
Passionnément sur RCF Saint-Etienne avec Olivier Brault et Claudine Arnaud, nos deux aventuriers qui sont partis depuis février 2009 sur différentes routes. La première fut la route de la soie. Ils viennent de terminer un périple au long de partant du Maroc jusqu'au Sénégal, à travers notamment le désert, et avec une expérience tout à fait particulière qui fut l'accompagnement pendant un mois d'une caravane de sel. Racontez-nous un peu dans quelles circonstances et puis pourquoi vous avez voulu faire ça.
Oui, les caravanes de sel, je crois que c'est la raison pour laquelle on est descendu finalement dans ce côté du monde. On avait vu, nous, des dans notre jeunesse, toujours, enfin des histoires sur Tombouctou, sur le désert, sur les chameaux, ces grandes caravanes. Et on avait vu, avant de partir, quelques mois avant de partir, une grande caravane de sel qui allait récupérer au nord de Tombouctou, à 800 km au nord de Tombouctou, dans les salines de Taoudéni, des plaques de sel, et qui les transportait jusqu'à la ville de Tombouctou pour qu'elles soient vendues. Et nous, on avait trouvé ça fascinant et on s'était dit, bon sang, ça serait une super chose de réussir à partager ce quotidien des caravaniers. Donc on est allé jusqu'à Tombouctou dans le but avec l'idée d'essayer de rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait nous introduire dans les caravanes de sel. Mais ça n'a pas été si facile.
Oui, ça n'a pas été simple parce que la zone est à risque en ce moment, donc interdite aux étrangers. Qui pouvait prendre la responsabilité de nous emmener dans ce coin-là? Donc c'est à 800 km au nord de Tombouctou, donc vraiment en plein désert et dans un désert hostile puisque il n'y a aucune végétation, rien du tout. Nous, on a pu rejoindre à Taoudéni la caravane qui est descendue.
Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont accepté alors?
Non, c'est pas.
On a eu comme un entretien d'embauche. Hein. On a dû justifier la personne qu'on a rencontrée dit mais vous vous rendez compte qu'il y a un vrai risque dans votre projet et il a fallu lui expliquer un peu je sais pas ce qui nous poussait ou. Et il y a eu comme un d'énormes concours de circonstances. Quand il s'est renseigné, il connaissait le chef de la caravane, il connaissait le camion qui nous a emmenés jusque là-haut. Enfin, il y avait tellement de signes, entre guillemets, et les gens là-bas sont vachement sensibles à tout ça, qu'il a eu l'impression que finalement, il pouvait pas faire autrement que de nous aider. Et quand on est monté dans la voiture qui nous a emmenés, il nous a dit « mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter. C'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas ce qui m'a pris d'accepter. » Parce que c'était vraiment un scénario extraordinaire. Il fallait qu'on soit habillé en Touareg. Claudine était habillée en homme, parce qu'il n'y a jamais de femme dans les caravanes. Donc il fallait qu'il n'y ait pas de signe distinctif. On devait marcher en claquettes pour ne pas laisser de traces non plus avec nos chaussures de touriste. On a dû quitter la ville en changeant deux fois de voiture pour rejoindre un camion à 30 km en plein désert dans la nuit, pour que personne ne puisse être au courant en fait que
des étrangers
fassent
partie de cette caravane future. Voilà. Donc vous êtes monté jusqu'aux mines de sel et vous êtes redescendu avec eux.
Exactement, oui. On est monté jusqu'aux mines donc avec les camions qui remplacent un peu les caravanes, qui commencent à remplacer les caravanes. Le camion nous a amenés jusqu'aux salines et ensuite on est descendu en 18 jours avec les chameaux.
Voilà. Ça, c'est, effectivement, ça a dû être une expérience tout à fait incroyable. Oui, pas facile, sans doute, parce que c'était soit sur le chameau, même si c'était des dromadaires, soit à côté, et marcher dans le sable, que ce soit sur l'animal ou à côté, ça doit pas être simple.
Oui, c'était pas simple, surtout que finalement, on marchait peu. On marchait peut-être maximum 3 heures dans la journée. Le reste, on le passait sur le chameau, parce que la caravane n'avançait que la nuit, enfin de 17h à peu près jusqu'au matin, jusqu'à 8h, 10h du matin. Et donc c'est Pourquoi ? C'est parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Donc les bêtes se reposent quoi, la journée. On ne peut pas les faire avancer. Donc la caravane marche la nuit. Et ce qui veut dire que pour nous, c'est un autre rythme parce qu'on dort très peu. Donc pendant 18 jours, finalement, on dort très peu parce qu'on dort en haut du chameau, assis sur les bagages.
Quand on a l'habitude, ça ne doit pas être simple non plus, mais quand on n'a pas l'habitude...
Ouais. Ouais. Ils nous avaient interdit, hein, les trois premiers jours, ils nous avaient dit « vous ne devez pas dormir parce qu'il y a un tel balancement » et ils étaient sûrs qu'on allait tomber en fait. Donc voilà, ils nous avaient dit « ne dormez pas » et puis quand vous serez un peu plus habitué au rythme, vous pourrez essayer de fermer un peu les yeux. Donc voilà, je pense qu'on dort un peu comme les marins, là, quelques minutes seulement, puis hop, on se réveille parce que... La plupart du temps, on est en train de tomber d'ailleurs. Donc,
et au bout du compte, ça n'a pas été si dur que ça ait gâché l'impression extraordinaire du voyage. Parce que physiquement, ça a dû être dur.
Pour nous, ça a été terrible. Hein. Mm-hmm. Physiquement, c'était vraiment terrible. Mais je crois peut-être que c'est, je ne sais pas comment le décrire, en tout cas, ça fait partie des choses qui nous ont mis dans une condition où on a pu, je ne sais pas, s'ouvrir à des choses extra. Le désert, c'est fascinant. Il y a tellement rien que... on se ressente de fait sur l'essentiel. Et voir ces hommes qui s'unissent avec les bêtes un peu pour fendre cette atmosphère, cet environnement hostile, ça dégage des équipages, il se dégage une puissance. Enfin, c'est superbe comme expérience.
Mmh. Oui, même si c'était long, c'est vrai, ces soirées, c'était unique. Enfin, on se le disait même qu'on rêvait, on était vraiment hors du temps parce que on n'avait jamais marché comme ça dans le désert avec des caravanes, rien que des caravanes, et puis hors du temps aussi parce que ces hommes, ils ont des gestes depuis des centaines d'années qui sont toujours les mêmes. Ils ont un équipage, enfin des cordes, etc. pour attacher les plaques qui sont toujours les mêmes depuis des centaines d'années.
Les plaques de sel.
Les plaques de sel, voilà. Donc, on était fascinés, en fait, par ces hommes et par leur métier, quoi.
J'imagine que, comme d'habitude, lorsqu'on a vécu des choses aussi décalées du monde dans lequel vous êtes revenu, ça ne doit pas toujours non plus être très, très souple pour reprendre pied. Hein, c'est un petit peu comme le marin, effectivement, qui reste des mois en mer. Comment est-ce qu'on fait pour remarcher droit après ? Je ne parle pas que du tangage ou du roulis, je ne sais pas, du
trobadaire. C'est vrai que c'est un peu difficile. Il y a un vrai décalage entre ce qu'on vit et puis quand on revient en France, on voit que déjà le rythme n'est pas le même. On a une société qui va vraiment à toute vitesse comparée au reste du monde. On a un stress qui n'existe pas dans beaucoup, beaucoup de pays. C'est bon, voilà, il faut se remettre, on n'a pas le choix forcément quand on revient ici, et puis on ne va pas passer non plus nos vies sur les routes, donc un jour il faudra vraiment se réinstaller, et c'est peut-être là que ça sera le plus dur. Là on est en vacances, entre guillemets, quand on vient en France, donc on profite de nos proches, et on sait qu'on va repartir, mais c'est sûr que c'est différent.
Alors vous repartez le 14 mai. Quand l'émission sera diffusée, vous ne serez plus sur le territoire français, mais vous serez déjà en Afrique. Vous partez du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud pour aller donc jusqu'au Tanzanie. Vous remontez non pas le long de la côte, mais plutôt quand même l'est de l'Afrique. Vous allez monter au Kilimandjaro ?
Oui, c'est prévu. On va voir les conditions physiques dans lesquelles on est, mais normalement il n'y a pas de problème. Et puis un peu la question d'argent aussi, parce que apparemment c'est très cher. Donc on verra.
Le Botswana, la Zambie, le Malawi, tout ça sont la Tanzanie, le Kenya, je ne sais pas si je l'ai dit, donc autant de pays que vous allez traverser. Vous partez comment ? Dans quel état d'esprit ?
Là, cette fois-ci, je crois qu'on a vraiment envie d'aller à vélo du début à la fin. Dans les autres voyages, on a toujours eu un moment, on a pris un petit bus parce qu'on était en retard ou parce que les distances étaient trop longues. Là, on a 6 mois pour faire 7000 km et on va essayer de faire ça 100% à vélo. Donc je crois que c'est... On se concentre un peu aussi sur le côté, sur le côté vélo, autonomie, pendant tout le voyage.
Vous avez dit plusieurs fois, Olivier... on est bien ensemble, on est tous les deux, on est heureux d'être ensemble. C'est ça le moteur qui fait fonctionner la machine ?
Oui, c'est indispensable. Ouais. C'est indispensable. Parce que c'est finalement, on est souvent dans des situations, malgré tout, stressante, fatigante, et ben il faut être deux là-dedans. Deux pour s'épanouir, dans le sens où si l'un suit l'autre et ne supporte pas, ben, je sais pas, la fatigue, ne supporte pas la saleté, pour le dire clairement, parce qu'on n'est pas toujours très propre. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on ne tolère pas tous de la même façon. Et nous deux, on est contents de voyager, et on est contents de voyager de cette façon-là. Donc ça nous aide aussi pour nous sentir épanouis l'un et l'autre. Et puis voilà, être deux, c'est super dans cette aventure.
Claudine ?
Oui, oui, c'est sûr que c'est une force, et ce voyage à la fois pour... Enfin, c'est une force pour notre couple de faire ce voyage, et c'est aussi une force d'être ce qu'on est tous les deux, et de partir en voyage ensemble. Voilà.
Merci. Sans doute, j'espère. Peut-être au téléphone, un de ces prochains jours en Afrique.
Avec plaisir.
N'hésitez pas à nous faire signe, hein, comme d'habitude, un petit message par internet, et puis on vous appelle, et le miracle de la technique fonctionne. Et puis bien sûr, très très bon voyage, et on vous attend dans 6 mois pour venir nous raconter votre voyage du Cap de Bonne-Espérance au Kenya.
Merci.
Merci.